En 2011, à 26 ans, je me suis fait faire un tatouage. Alors je vais vous le montrer pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Le voilà, il est juste là en vrai. Donc ce tatouage est un code, c'est un secret. Mis à part ma mère et quelques amis, j'ai jamais voulu dire ce qu'il représente. Mais ce soir, je vais vous dire à tous ce qu'il signifie. Ce code, c'est la date de mon 30e anniversaire. Le 20 octobre 2014. La date à laquelle je m'étais promis d'avoir accompli toute une liste de buts précis dans ma carrière et la date à laquelle je m'étais promis d'avoir accompli une partie de mes rêves. Seulement voilà, plus j'approchais la trentaine et que je commençais à concrétiser mes rêves, et plus je me sentais perdue et je commençais à douter. Le jour de mon 30e anniversaire, j'étais complètement perdue. Alors maintenant, avec un petit peu de distance, je me rends compte que tout ce qu'il y avait sur cette liste ne m'intéresse pas, voire même m'attriste, et surtout j'ai de nouvelles envies et une nouvelle vision de l'ambition. Alors ma mère m'a demandé si je regrettais, évidemment, et là j'ai réalisé que j'avais la chance d'avoir la plus grosse leçon de ma vie imprimée sur moi jusqu'à ma mort. Bon, du coup, c'est pratique, hein, les matins quand je me mets du déo, ben, voilà, je sais pourquoi je suis là. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir quelque chose à tout prix, tout donner pour y arriver, en rêver jour et nuit, atteindre vos objectifs, l'avoir, et puis vous sentir insatisfait et désirer autre chose? Et si nos rêves n'étaient pas tout à fait les nôtres? Et si nos ambitions et nos attentes nous éloignaient de ce qui nous rend vraiment heureux? Et si la société actuelle nous conditionnait dès l'enfance à une certaine vision du succès et de l'ambition? Alors j'ai toujours aimé le théâtre. Quand j'étais petite, à la récré, je préférais rester à l'intérieur dans la salle de classe pour faire des petites scénettes avec une copine. J'ai même déguisé, répété. Mais là, en faire une carrière, je suis moins sûre. Bon, alors maintenant, je me rends compte que ce que j'aimais, c'était communiquer et partager. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là ce soir. Mes buts et mes ambitions ont été influencés, comme tout le monde, par un, mon conditionnement social et culturel, et deux, mon histoire personnelle. Alors pour ma part, j'ai grandi en ayant le sentiment de ne pas avoir été respectée, protégée et entendue. Du coup, je me réfugiais dans ce que je voyais à la télé et les magazines. Et puis j'ai vite compris que plus les personnes avaient du succès et des possessions, et plus elles étaient considérées. Alors évidemment, moi qui avais besoin d'être rassurée et vue, eh ben j'ai essayé de copier ce que la société nous imposait comme réussite. Et vu que les artistes ont toujours admiré que je chante comme une casserole et que je faisais déjà du théâtre, bah tout naturellement, je dis « moi je vais faire ça ». Je vais montrer au monde de quoi je suis capable. J'ai choisi mes rêves pour apaiser mes blessures d'enfance. Alors pendant plus de 10 ans, j'ai été actrice. J'ai fait des séries télé pour TF1 et France 2, et puis à 26 ans, je suis partie à Los Angeles pour réaliser mes rêves, ceux du tatouage, et j'ai dit, moi, je vais être actrice à Hollywood. Alors là-bas, j'ai commencé à vivre le lifestyle que j'avais toujours rêvé. J'ai même décroché des films dans des films américains, des rôles dans des films américains. Bon, alors j'ai pas fini en haut de l'affiche, hein, quand même, mais j'ai tourné avec des acteurs que j'admirais. Mais pour tout vous avouer, plus je tournais, et plus je m'ennuyais. Je voyais bien la différence entre moi et puis les acteurs qui étaient là par pure passion. C'était complètement différent. Alors j'étais frustrée, et puis j'avais d'autres envies, et surtout j'avais honte. J'avais honte parce que j'avais peur que mon entourage me juge et voit ça comme un échec. J'avais quand même sacrifié 10 ans de ma vie pour ça, j'avais quand même pas changé d'avis maintenant. Alors j'ai commencé l'acting au même moment que l'arrivée des réseaux sociaux, vers mes 20 ans. Je fais partie de la génération milléniale. Je suis devenue adulte avec Internet, les téléphones portables et les réseaux sociaux. Ça m'a affecté beaucoup plus que je le pensais. Alors attention, ce soir, je ne suis pas là pour critiquer Internet. Hein. C'est un moyen incroyable de rassembler, de créer et de faire évoluer nos sociétés. Mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qui se déroule sous nos yeux en ce moment et de son impact? Les murs Instagram et Facebook, les recherches Google, les news sur les sites d'information avec les publicités, et tout ça, c'est pour en citer quelques-uns, sont tous filtrés par des algorithmes. Alors, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend toute la journée a été indirectement programmé pour nous. Facebook, qui a à peu près 2 milliards de membres, a été accusé récemment par ses anciens employés de manipuler nos émotions et nos décisions. Un ancien exécutif de Facebook a même dit dans la presse il n'y a pas longtemps « Vos comportements, vous ne vous en rendez pas compte, sont programmés. » Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe plus de temps sur leur plateforme. Les réseaux sociaux provoquent des addictions comparables à l'alcool, au tabac et aux drogues. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps ? Eh bien, on poste des photos et on écrit tous les jours. On met en scène nos vies. Non seulement on doit faire face à nos égos maintenant, mais en plus on doit faire face à l'ego de tout le monde, toute la journée, tout le temps. Alors la société, elle nous pousse à idéaliser la vie des autres et à croire qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez jeune, on n'est pas assez vieux, on n'est pas assez riche, on n'est pas assez pauvre, on n'est pas assez zen, on n'est pas assez brun, on n'est pas assez licorne. Moi, tout ce que ça a fait, c'est que j'ai perdu complètement confiance en moi. J'ai commencé à vouloir être et faire des choses qui ne me correspondaient pas et qui étaient à l'opposé de mes valeurs. J'admirais, je jugeais, et je me comparais. Et puis je likais. Alors quand ça allait pas, je postais une selfie. Quelques heures plus tard, je me sentais mieux parce que là, il y avait le rush de tous les likes. Et puis alors évidemment, le soir arrivait, je me ressentais mal et là, il fallait que je repose. Donc ça ne s'arrêtait pas. Le problème, quand je postais une selfie trafiquée, c'est que j'envoyais le message à mon entourage et aux jeunes que la seule façon d'être considérée, c'est de s'appuyer sur des valeurs superficielles. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Cette première photo, je l'ai postée il y a 3 ans, lors du dernier photoshoot que j'ai fait, dernier photoshoot professionnel. Elle a eu 461 likes. Alors sur cette photo, tout est faux. J'ai été maquillée pendant 2 heures et coiffée pendant 2 heures. Ma peau est retouchée. J'ai l'air sûre de moi et sexy alors qu'en fait, je suis frigorifiée. Et la seule raison pour laquelle j'ai accepté ce photoshoot, c'était parce que je savais que je pourrais me faire mousser sur mes réseaux sociaux et ça allait booster ma confiance. La deuxième, je l'ai postée 6 mois plus tard. Je l'ai postée avec un texte qui l'accompagnait pour expliquer ce qui se passait. J'ai rencontré cet homme lors d'une visite d'un programme contre l'illettrisme au Népal. Donc on était tous ensemble avec un groupe de femmes dans la classe qui participaient au programme, et puis cet homme était tout seul au fond de la classe. Au bout d'un moment, il s'est approché, il a été devant le tableau, et il a commencé à écrire un mot, tout doucement. Là, il s'est retourné, et il nous a dit « Toute ma vie, je me suis sentie bête. Mais aujourd'hui, je peux lire et écrire. » Alors évidemment, on lui a demandé ce qu'il préférait, et là, il nous a dit « Je peux écrire mon nom. » En 5 mots, cet homme m'a appris ce qu'était la détermination, le courage et l'humilité. Ce poste a eu 68 likes. Le paraître, la perfection, la compétition sont intensifiés au détriment de la compassion, de l'acceptance et du réel. D'après Facebook, 100 millions de vidéos sont regardées chaque jour sur leur plateforme. Common Sense Media a montré que les adolescents passaient en moyenne 9 heures par jour à consommer des médias. Et Pew Research Center montre que 24% des adolescents sont constamment sur leur téléphone portable connecté à Internet. Alors comment un adolescent peut découvrir qui il est, développer sa personnalité et se sentir libre de ses choix s'il est constamment sous l'influence des réseaux sociaux et des médias ? Le monde veut nous faire croire que le succès s'apparente à des valeurs superficielles, à l'argent et au pouvoir. Et le problème avec ça, c'est que certains d'entre nous, et moi la première, on oublie l'impact de cette vision du succès sur l'environnement et nos sociétés. Alors nos ambitions sont de produire de plus en plus, de vendre de plus en plus, de consommer de plus en plus. Le succès d'une entreprise est seulement basé sur son succès financier, et l'impact humain et environnemental ne fait même plus partie de la balance. C'est évidemment pas durable. Alors, est-ce que vous aussi, vous voulez plus de sens ? Est-ce que vous aussi, vous voulez faire une révolution ? 1. Tous ensemble, on pourrait limiter et prévenir. Pour réduire nos insatisfactions, nos dépressions et aussi le conditionnement, on pourrait réduire nos accès aux médias et aux réseaux sociaux. Alors, ça paraît facile, hein, mais pour tout vous avouer, moi, je suis en plein dedans. C'était ma résolution 2018, on est le 12 janvier, et j'ai déjà craqué à peu près 372 fois. Donc, ne prenez pas exemple sur moi. Tristan Harris, ancien designer éthique de Google conseille de se mettre des horaires très précis pour aller sur Internet. Et le plus important, c'est de ne pas regarder nos portables, nos emails, les réseaux sociaux et les news le matin au réveil. Alors ça paraît anodin, et pourtant ça augmente notre impression de manque. Parce qu'inconsciemment, on a l'impression d'avoir tout loupé pendant la nuit, et on se met à tout vérifier. Deuxième étape, l'amour. On pourrait peut-être se reconnecter à nous-mêmes, aux autres et à l'environnement. Alors le temps qu'on aura gagné à réduire notre consommation de médias, on pourrait peut-être la passer à essayer de pratiquer l'autoréflexion et la pleine conscience. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la méditation, prendre du temps pour moi et marcher dans la nature. La nature, on l'oublie souvent, c'est un très bon guide. Elle nous rappelle avec humilité notre place dans ce monde. Elle nous apaise, elle nous inspire. Et puis aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aller boire un coup au café du coin avec son voisin au lieu de lui parler pendant 30 minutes sur Messenger. Toutes ces petites techniques et ces petits outils, ça nous permet de redécouvrir qui on est et surtout d'enlever le masque. Alors l'autoréflexion, pour moi, ça m'a permis de faire face à mes peurs et surtout arrêter de fuir. J'ai commencé à accepter mon imperfection, ma vulnérabilité et surtout mon manque d'amour. Et l'amour est devenu mon acte de rébellion face au système. La troisième étape, redéfinir le succès dans un monde qui plus que jamais a besoin de nous. On pourrait peut-être utiliser nos boutons like et nos boutons j'aime et puis le bouton play consciencieusement. On pourrait mettre en valeur les personnes qui mettent déjà toute leur énergie à préserver l'environnement et à rassembler nos sociétés au lieu d'admirer les stars d'un jour sur Instagram et Twitter. Est-ce que vous savez que le Dalai Lama a moins d'un million de followers et qu'une star de télé-réalité en a plus de 104 millions sur Instagram. Alors peut-être qu'aussi on pourrait mettre nos technologies et les réseaux sociaux un peu plus au service de valeurs, au service du service, au service des innovations, des sciences, du bien-être. Et puis peut-être qu'on pourrait créer la société dans laquelle on a envie de vivre et pas celle que la société de consommation nous impose. Et si le succès, c'était d'être intègre, d'avoir de l'éthique, retrouver du sens. Et si le succès, c'était de passer de nos valeurs à l'action? Et si le succès, c'était de protéger notre planète plutôt que de la détruire? Et puis de s'aider les uns les autres plutôt que d'être en compétition? Et si le succès, c'était pas en fin de compte d'être heureux, d'aimer et de faire le moins de mal possible? Alors de la selfie au service, de l'écosystème à l'écosystème, de la compétition à l'altruisme, notre futur apparaît au moment où on décide de le créer. Alors, il y a 2 ans, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais faire un documentaire. Alors, j'ai demandé à une amie, Marine Billet, de le co-réaliser avec moi. Ce documentaire est une quête sur 4 continents sur l'amour et son impact dans le monde. On veut essayer de montrer quel genre de société pourrait émerger si on se reconnectait à l'amour. Ce documentaire s'appelle « I love, therefore I am ». Depuis, ma vie est une grande aventure. Alors, je rêve beaucoup moins, mais je vis beaucoup plus. Je me suis acceptée, je suis passée à la réalisation, j'écris, je me bats pour des causes qui me font vibrer, et pour ça, j'ai tout arrêté, j'ai tout lâché. J'ai lâché ma carrière, ma maison, je me suis retrouvée sans une thune. J'avais même plus de quoi de payer un loyer. Du coup, j'ai mis toute ma vie dans 17 cartons dans un garde-meuble et je suis passée de canapé en canapé pendant 18 mois avec 2 valises et mon chien. 2 ans plus tard, on est toujours en production du documentaire. J'ai toujours un chien. Je ne dors plus sur des canapés. Mais je suis vraiment heureuse. Alors maintenant, j'ai 2 questions pour vous. C'est quoi vos rêves? Les vrais? Et est-ce que vous êtes prêts à faire votre révolution ?